Bonjour à tous. Donc en fait, c'est vrai que j'étais encore exploité par Picard et Flandin pour un exercice pas évident, déjà l'année dernière, sur l'état de l'art. Et là, maintenant, faire un état de l'art, entre guillemets, adapté à des, entre guillemets, un public formateur. Moi, entre guillemets, de cursus, je suis enseignant. Hein. Pendant plusieurs années, j'étais enseignant. Puis après, j'ai intégré l'ex-UFM SP comme formateur. Et puis, comme Simon, j'ai entamé un parcours de recherche. On va dire, avec Monsieur Chaliès, dont il a évoqué tout à l'heure et hier le prénom, et sur la vidéoformation. Voilà. Alors, du coup, l'exercice était peu évident, parce qu'en fait, il y a un an, j'avais fait un état de l'art qui était plutôt dans une démarche scientifique, c'est-à-dire de faire un état des lieux de ce qui se disait, ce qui s'était écrit au niveau scientifique sur la vidéoformation. Et là, du coup, au jour d'aujourd'hui, je vais essayer un exercice un peu plus périlleux, c'est-à-dire essayer de vous faire comprendre, sans être... lourd dans le propos, ce qui se joue en vidéoformation compte tenu des recherches. Et un peu, si je reprends ce qu'a dit Frédéric hier, d'ailleurs, la recherche ne rend pas compte de toute la richesse de ce qui se joue d'ailleurs en formation. Mais en tout cas, ce qui s'y joue en termes de recherche. Puis après, essayer de coller à ces résultats de la recherche des recommandations, des réflexions ou perspectives. Et puis, je vais essayer de coller à ce que Simon a présenté hier, c'est-à-dire quelles conséquences en termes de prévoir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif de vidéoformation, sachant que vous avez bien vu que le centre de gravité et un peu la matrice, c'est quand même formation. Hein. Le mot formation, la vidéo vient, entre guillemets, répondre à un projet beaucoup plus large. Alors, j'ai pris quatre cocottes. Hein. La première, c'est quelle est la nature de l'activité des enseignants lorsqu'ils visionnent une vidéo. Et quand en fait un enseignant regarde une vidéo, il est engagé dans deux processus qui sont interdépendants. C'est à la fois une attention sélective et à la fois le raisonnement. Alors, je vais d'abord m'attacher à ce qu'est l'attention sélective. En fait, c'est la capacité à identifier les éléments pertinents, malgré en fait ce qu'on a vu hier, leur complexité, leur multiplicité et parfois leur simultanéité. Donc, en fait, on voit que c'est quelque chose qui est peu évident. Et la littérature montre que, quels que soient les enseignants, qu'ils soient novices ou experts, ils ont des difficultés, entre guillemets, à se centrer sur les éléments pertinents sans formation et guidage. Par contre, ils ont deux problèmes un peu singuliers. Les novices, la littérature considère qu'ils ont un manque de connaissances. Et les expérimentés qui ont tendance à se centrer exclusivement sur leur propre activité. Et les deux, par contre, ont quelque chose de commun. Merci. C'est ces préoccupations, c'est-à-dire quand je regarde, c'est lié à mes préoccupations qui sont liées soit à mes croyances ou mes expériences passées. Alors, si je m'attache aux novices, du coup, on recommande un apprentissage de connaissances didactiques et pédagogiques. Et beaucoup de littérature, notamment anglo-saxonne, est ancré sur développer une vision professionnelle. C'est-à-dire que eux, la vidéoformation ne sert uniquement à former les enseignants qu'à repérer dans leur activité de classe les éléments pertinents qui leur permettent d'enseigner de façon plus efficace. Et donc, le seul objectif en termes de conception pour eux, c'est de délimiter ces connaissances à donner en amont des visionnages pour permettre, entre guillemets, d'aiguiser leur regard et de les outiller. Par contre, si on prend une entrée activité qui vous a été présentée hier, on va peut-être pas concevoir de la même manière. C'est-à-dire que Patrick a parlé hier de l'analyse du travail, en montrant certains travaux actuels. On serait plus, nous, dans ces entrées-là, à modéliser en fait ce qui se passe réellement au travail et d'essayer de modéliser ça, des activités typiques, des gestes de métier, et donc de donner à voir ces choses-là. Donc on n'a pas le même angle d'entrée en termes de conception, en fonction aussi de certains prérequis. C'est-à-dire qu'une même difficulté à avoir des activités de classe, pour dire autrement, ces littératures sur la vision professionnelle, ils sont sur le savoir apprendre à observer. Alors que dans les entrées activités, on est là pour apprendre à agir. Et dans agir, il y a aussi observer. Mais on a une vision beaucoup plus holistique. On ne centre pas uniquement sur des capacités à observer des vidéos. De façon triviale, en fait, eux, quand ils les forment face à des vidéos, ils disent que c'est efficace, qu'ils sont capables de repérer dans une autre vidéo des choses de façon pertinente. Nous, on dit que la vidéoformation est efficace quand on crée du changement dans l'activité professionnelle, dans son ensemble. Même si on ne néglige pas l'aspect d'être capable de prendre des éléments pertinents. Mais c'est quand même deux postures différentes dans la conception et dans la finalité, en fait, d'un apprentissage. Pour les expérimenter, là, ça a été, la littérature est assez, entre guillemets, importante là-dessus. C'est donner le primat à l'observation de l'activité des élèves. C'est-à-dire, même si on montre et on donne à voir une activité conjointe enseignant-élève, on va mettre la focale, en fait, sur l'élève. Et on va partir de comment l'élève agit dans la situation proposée par l'enseignant. Par contre, ça a un peu impacté la façon d'aller filmer. Peut-être que certains peuvent ne pas se retrouver dans certains corpus de Néopass où, entre guillemets, on a une vision d'un plan large et qu'on voudrait peut-être à un moment donné une interaction élève filmée ou une interaction plus précise entre un enseignant et un élève, ou voir le travail de classe aussi, pour pouvoir interagir par rapport à ce travail avec des traces. Par contre, ça peut être une complémentarité, une alternative. Par contre, on peut aussi voir un prolongement en formation initiale, c'est-à-dire dans certains dispositifs, ils commencent les cours magistraux, par exemple en enseignement de maths, en mettant les enseignants à faire l'exercice, par exemple, de 6e. Voilà, vous avez l'exercice numéro 3, tout le monde s'y colle, vous avez 10 minutes. Et après, on projette une vidéo d'élèves en train de faire l'exercice et les problèmes, les questions, les dilemmes qu'ils se posent. Et on enracine, en fait, le cours magistral et donc le concept théorique à partir de l'observation d'élèves. Donc, il existe des formations continues et des formations initiales où, en fait, même un apport théorique se base sur, en fait, comment un élève y réagirait dans un contexte de classe. Pour obliger les gens à pas être uniquement centrés sur leur activité, mais partir de l'élève pour ensuite construire des postures par rapport à l'élève. Donc c'est ce que je viens de dire, introduire une notion théorique, demander aux étudiants de réaliser l'exercice et projeter une vidéo de classe pour voir les difficultés rencontrées. Et en fait, l'idée quand même sous-jacente pour vous, c'est éviter de reproduire en fait le hiatus qu'il y a entre souvent théorie et pratique, c'est que la vidéo souvent on l'envisage uniquement dans les UE dites professionnelles. Et que ça doit être aussi possiblement envisagé dans des UE, même didactiques, même théoriques, où on peut donner une autre résonance, un autre intérêt aussi au cours. Et des fois, dans la conception, j'entendais beaucoup de présentations qui sont... Première justification, on est dans une UE pro. Et en fait, c'est vrai que cette distinction-là, la vidéo, normalement, elle ne devrait pas reproduire soi, mais essayer du coup de créer des ponts, d'essayer de renverser un peu... Même la nomenclature CMTD, à un moment donné, elle peut être un peu mise à mal par rapport à ça. Alors après, il y a des recommandations. Là, c'est de présenter aux enseignants des vidéos en adéquation avec leurs capacités et besoins. Donc ça, c'est une évidence. Hein. Avec ce qu'ils savent, avec leur niveau de développement pro, bien évidemment, hein, celui qui est en licence, celui qui est en stage CHOPA, CER ou qui a 10 ans de métier et qui on n'est pas sur le même public. Le contexte aussi, bien évidemment, une résonance sur le type d'établissement et d'élèves. Et d'accéder à leurs préoccupations. Et ça, c'est, je pense, en termes de conception, la chose la plus importante. Je pense que dans tous les groupes, il y a un moment où on s'est posé la question... que vu que la vidéo formation fait émerger forcément une activité singulière d'un formé à une image, se pose la question, est-ce que je peux faire la vidéo formation avec 100 personnes devant moi? Ça peut être un inducteur. On pourrait imaginer que dans un CM, on parte d'un travail. Mais en fait, il peut pas, entre guillemets, être finalisé par un travail à 50. Se pose la question, est-ce que j'accède à leurs préoccupations? Est-ce que je discute avec eux? Est-ce que j'ai un format, entre guillemets, de cours qui permet... Certes, à un moment donné, peut-être dans un cours, ils étaient nombreux, j'ai pu amener des choses, des types de réflexions, mais l'accompagnement proprement dit du formé, elle se fait que quand le formateur accède à ces préoccupations-là. Et donc, ça interroge énormément dans nos, entre guillemets, modalités actuelles de formation à grands groupes. Où certes, on peut déclencher des choses, mais l'accompagnement, si on n'est pas capable d'avoir un rapport par moment d'individualiser avec le formé, ça pose question. En termes de conception. Hier aussi, quelque chose qu'on pointe souvent, c'est l'influence non négligeable de l'affichage du dispositif, c'est-à-dire son étiquetage. J'étais dans un groupe, et par exemple, si on dit gestion de soi, c'était très intéressant la réflexion, ça peut déjà amener chez certains soit une adhésion, soit une réticence. C'est-à-dire peut-être celui qui est en difficulté sur ça, sur notamment des ateliers qui peuvent être volontaires, ça peut amener des réticences. C'est-à-dire le nom même du dispositif de vidéoformation dans la littérature montre que ça peut impacter la capacité des gens à y adhérer, à rentrer dedans, ou à même... Et donc, c'est pas anodin. L'étiquetage, par exemple, club vidéo, ça n'a pas été choisi par hasard. C'est l'aspect convivial qui est mis en avant, l'aspect échange. Et ça a eu, à l'époque où ils avaient un autre nom, c'était une analyse, quelque chose d'assez scientifique, les gens n'y venaient pas. Les gens, en fait, le nom même du dispositif de vidéoformation, vu que ça touche à une forme d'intime, c'est-à-dire se voir au travail, voir les autres au travail, la façon dont il est affiché, des fois, peut impacter. Donc, même dans la conception dès l'affichage, on peut se poser parfois la question, entre guillemets, quelle réaction ça provoque chez la personne qui voit le dispositif dans un programme de formation continue, par exemple. Prendre en compte les limites de l'outil. Alors la première chose qu'on a vue, c'est que l'image, en fait, elle est riche en contenu informatif. C'est-à-dire, il y a une polysémie, et la littérature donne deux recommandations. La première chose, c'est des courts extraits, voire des repères explicites, c'est-à-dire être capable d'annoter une vidéo avec des signes ou des commentaires ou des arrêts sur image, la possibilité, entre guillemets, de jouer sur l'outil et l'aménagement de l'outil pour, entre guillemets, prendre le temps avec les gens de s'arrêter sur certains éléments ou aspects qu'on considère comme importants. Il y a aussi l'effet trou de serrure, c'est-à-dire qu'on présente toujours 2 minutes d'une réalité, et donc on est obligé à un moment donné dans la conception de penser les informations contextuelles qui vont permettre à un moment donné de ne pas rentrer de façon trop subjective sur un extrait très court d'une réalité. et donner des filtres de visionnage. Donc il existe dans la littérature plein d'exemples. Hein. Il y a vraiment pléthore de publications. Par exemple, il y a un cours d'enseignant novice où, entre guillemets, il commence par regarder les objectifs. Est-ce que c'est en adéquation avec les objectifs poursuivis? Quel est l'apprentissage des élèves? En fait, il donne des filtres progressifs en fonction des thématiques. En tout cas, il faut retenir, outiller, entre guillemets, le regard. Sinon, il y a une forme de cécité. Et surtout, ce qu'a dit, par exemple, hier Frédéric sur les bras croisés, qui ont une signification qui fait qu'on peut aussi éviter certaines interprétations rien que en fournissant 2-3 éléments de contexte. Et ce qu'on a mis en évidence avec Simon dans deux travaux, c'est la part irréductible d'autonomie de l'enseignant qui visionne. Et ça, on peut pas passer outre. C'est-à-dire que même moi, dans mon dispo qui est un peu plus normatif, où le formateur dit « Regardez l'enseignant là, regardez les consignes qu'elle est en train de présenter », et donc il met l'accent pendant une demi-heure sur la façon dont sont délivrées les consignes dans la présentation de situation, et bien vous avez la moitié des étudiants qui vont certes s'en emparer et réussir dans leur pratique à s'en emparer, et d'autres, vous allez les voir, ils ont transformé leur pratique uniquement en prenant des choses qui les intéressaient. En fait, bah non, moi là, tu vois, dans la vidéo, j'avais juste regardé comment se positionner par rapport aux élèves, parce que c'est ça qui me préoccupe. Et donc, ils s'emparent d'un truc. Donc, l'enseignement est forcément perfectible, et le formateur doit être conscient aussi, quand il enseigne, qu'en fait, même quelle que soit l'activité qu'il déploie, il y a une activité autonome, déformée, et donc se pose encore la question de comment j'y accède, et donc du format. Parce que quand il s'en empare et que ça marche, ça va. Quand il s'en empare et que c'est de la frustration et que ça ne marche pas, ils vont pas en parler, on sait pas ce qui s'est passé, et du coup, la vidéo formation, elle a été pas du tout fructueuse. Donc ça pose la question de est-ce que je peux la structurer, cette autonomie, est-ce que je peux même la penser en termes de conception, comment j'y accède et comment je l'accompagne. Mais elle existe. Quel que soit ce que vous déployez, même un extrait de 30 secondes, même si vous mettez l'accent sur un truc, ils y voient toujours des choses que vous n'avez pas prévues. Donc c'est assez impressionnant. Alors, il y a ça aussi, tous les formés interrogés, quel que soit leur niveau, ils demandent à visionner à leur guise. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans la conception ou en termes de formation. C'est de voir plusieurs fois sous différents angles, de façon continue ou découpée. C'est-à-dire qu'ils ont tous des intentions de revoir, entre guillemets, la séquence d'une façon singulière. Et donc, se pose la question, il y a aussi, par contre, la littérature montre qu'au-delà de 3 présentations, il y a un effet de saturation. C'est-à-dire que, au bout de 3 fois, souvent, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Donc, c'est pas non plus le montrer 10 fois. Hein. Par contre, se pose la question pour nous, comment on peut accompagner ça? Est-ce que c'est le nombre de supports? Est-ce que c'est la disponibilité des vidéos après? Est-ce qu'ils peuvent les visionner en ligne? Est-ce qu'il y a une banque de données? Se pose la question quand même que quand le formateur présente, souvent, il fait un passage, il questionne, il enchaîne, et on se rend compte que les formés, eux, sont en attente et ont besoin de voir plusieurs fois. Donc ça a pensé. Soit après, soit... Certains aussi ont montré l'intérêt de retourner au travail et qu'ils aient la possibilité de revoir la vidéo autrement et du coup de la revoir autrement par rapport... Donc il y a la disponibilité de l'image utilisée en formation, c'est quelque chose en termes de conception qui n'est pas négligé. Voilà. Mais après, il y a tout. Autant Néopa, c'est quelque chose qui est très figé, autant dans un dispo, dans une SP, parfois, le droit à l'image, comment je rends disponible, est-ce que c'est juste la bibliothèque et c'est en usage interne? Il y a quand même des questions de droit à l'image et rien. Mais en tout cas, si on écoute les formés de point de vue de la recherche, le formateur souvent crée de la frustration parce qu'il montre une fois, ou pas autant de fois que je veux et je voudrais la revoir parfois, ou à tête reposée, ou après ma pratique. Alors ça, je pense que je vais pas revenir longtemps dessus, c'est-à-dire que on se rend bien compte ici, que le choix de la manière dont vous filmez une séquence est fondamental pour rendre compte de ce que vous voulez, entre guillemets, viser comme apprentissage. Donc, il y a plein de façons de voir, hein, entre la façon dont vous allez choisir un plan large, un plan serré, etc. La captation sonore qui est fondamentale. Et souvent, il n'y a pas que les micros HF, hein, il y a aussi maintenant des micros d'ambiance, même externes, qu'on en place 2 ou 3 dans une salle et on obtient des super résultats. Donc, il y a quand même des aspects techniques à penser. Parce que c'est vrai que si on n'a pas une bonne captation, par exemple, je sais que Simon ou Patrick, quand ils font la plateforme, la qualité de l'image de la captation, c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour avoir un corpus en formation qui soit exploitable. Et par contre, ce qui est intéressant en littérature, c'est que il faut apprendre aux formateurs, c'est-à-dire à vous ou les gens que vous allez avoir sous votre coupe, et même aux enseignants, quand on dit aux enseignants d'aller se filmer, il faut quand même prévoir dans la conception, est-ce que je leur donne 2-3 choses clés sur la façon dont ils vont se filmer au travail ou filmer le travail pour contribuer à ce soit exploitable. Parce que souvent, en fait, en formation, on vous voit, et souvent, les premiers écueils qu'il y a, c'est que l'idée était super bonne, mais ce qui ramène, ou la façon dont vous avez donné les consignes, fait que c'est pas exploitable, ou ça génère une frustration, alors qu'on avait des choses plus potentiellement intéressantes. Donc c'est quelque chose juste à penser. Et puis, le droit à l'image, hein, j'y reviens pas, mais notamment, ceux qui sont pas au point là-dessus, mais comme il y a des lois en France, le droit de rétractation, il y a des choses très claires, et là-dessus, je pense qu'il faut être très au clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des super projets, des bonnes volontés et qui n'avaient pas assez délimité cet aspect-là. Et il suffit d'un clash avec un enseignant ou un truc pour, entre guillemets, qu'une direction ou un groupe ferme le projet ou, entre guillemets, ça amène des choses qui font que l'idée était bonne, mais globalement, cet aspect-là fait que le projet est mis à mal. Donc, faut pas le négliger. Et puis, je vous montre quelque chose. Si on va dans l'innovation, on en parlait beaucoup hier. C'est vrai qu'en France, nous, on est dans des classes assez fermées où, globalement, c'est un peu parfois un viol d'ouvrir la porte et de rentrer dans ma classe. Et il y a des cultures où, en fait, on rentre dans la classe de l'autre, on dit, viens, j'ai un élève, j'y arrive pas, puis je vais dans ta classe, et puis... On va même à l'extrême, et là je vous montre par exemple Hitchcock, c'est il y a 6 ans d'établissement en Angleterre où en fait les profs ont une caméra là, vous voyez, à demeure dans leur classe, et en fait ils peuvent l'allumer quand ils veulent, ils peuvent zoomer sur ce qu'ils veulent, parce que c'est comme une caméra de vidéosurveillance, les élèves la voient, elle est là toute l'année, et en fait on peut décider aujourd'hui, bah tiens je mets l'accent sur ce groupe d'élèves là et qui j'ai des difficultés, et puis bah chez moi je choisis 2 minutes et je l'envoie en ligne en fait à qui je veux, j'ai mes amis comme sur Facebook. Et je peux le partager avec qui je veux, au fait que là, j'ai pas réussi, tu vois, comment j'ai interagi, qu'est-ce que t'aurais fait, quelles consignes t'aurais donné. Et en fait, c'est pas utilisé de façon, c'est pas lourd en termes d'organisation. Et du coup, ça crée en fait une autre façon de voir la formation continue aussi. Et il y a même des novices, du coup, il y a des communautés dans l'établissement où on n'a pas le temps forcément, vous avez tous vu ça. Moi, je m'occupe des stages dans mon ACAD et il y a des chevauchements de collègues aussi où en fait, on a les mêmes créneaux et globalement, on peut pas les voir ou il y a des difficultés. Et c'est surtout qu'on peut prendre ce qu'on veut et donner à voir ce qu'on veut, aux gens qu'on veut. Et du coup, même à des gens très expérimentés, mais à 2 ans de la retraite, se sont mis dans ce truc-là en disant « Tiens, je peux renouveler, qu'est-ce que t'en penses ?» Et c'est montré qu'entre guillemets, des solutions techniques qui, si elles sont pensées face à un objectif, peuvent être très intéressantes au jour d'aujourd'hui. C'était juste montrer une illustration de ce qui existe. C'est Irish Connect. Mais je vous le donnerai. Alors, la durée des vidéos, c'était une question hier. Vous vous rappelez quand Frédéric a dit « Oui, mais moi, j'ai groupé, j'ai fait 10 minutes 48, plus 2 minutes en plus. » En fait, la littérature, là-dessus, il n'y a rien. Quand vous lisez tout, j'en ai fait 170 articles à peu près, ça fait de 2 minutes à une leçon en intégralité. On voit de tout. Et il n'y a aucun chercheur qui a montré l'impact ou l'influence de la durée sur l'apprentissage. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que 80% des publications qui s'appuient sur des programmes de formation réels, c'est-à-dire sur des formations existantes, c'est ce que j'ai regardé, les extraits sont entre 2 et 7 minutes. C'est-à-dire, si on regarde les extraits exploités par les formateurs au quotidien dans la plus grande majorité, on se rend compte que c'est assez court. Il n'empêche, c'est plutôt des montages. C'est-à-dire, on peut voir une leçon de son intégralité par rapport à un filtre qu'on a choisi, mais dans les 7 minutes, on a les 3 temps ou les 3 moments où j'ai interagi avec Jordan. Mais rarement la leçon dans l'intégralité. Déjà, la capacité déjà à prendre les informations. En plus, dans une formation, on ne peut pas perdre 1 heure ou 2 heures à montrer une leçon. Et puis il y a l'idée aussi que souvent les formateurs disent que si je ne suis pas capable de cibler l'objet, ça pose question aussi. Alors, il y a une autre question où il n'y a pas de réponse au jour d'aujourd'hui, c'est qui choisit la vidéo ? C'est-à-dire, il y a des études, la plupart des études disent que le formateur doit choisir la vidéo, même dans la formation continue, c'est-à-dire que même quand vous accompagnez des adultes, ils vous amènent des corpus, par exemple, de leur activité, et c'est vous qui les choisissez, parce que vous êtes le facilitateur du groupe et vous allez essayer de mettre en relation des extraits. Puis il y a des études récentes qui ont montré des effets très importants sur la participation, des réflexions beaucoup plus approfondies et des interactions beaucoup plus facilitées avec le facilitateur quand on donne la main aux formés sur le choix des extraits. Mais il n'empêche que le choix peut être comme orienté, il peut être thématisé ou autre, mais faire choisir à des gens des extraits est un travail qui peut être facilitateur, notamment... Par exemple, avec des expérimentés sur la relation qu'on va avoir avec ses pairs. Notamment, on a une proximité, on forme des gens qui ont 20 ans d'expérience comme nous et à un moment donné, on peut pas non plus les guider de la même façon que certains novices. Une autre réflexion, c'est les ingénieries coopératives. Ce qui est intéressant, c'est qu'a été montré l'efficacité de pas choisir seul la vidéo. La première chose, déjà, qu'en tant que formateur, ce qui est très important, c'est parfois de choisir avec la personne qui a été filmée. C'est-à-dire qu'on va accéder à des choses. Il y a certains qui vont même jusqu'à choisir des extraits avec des chercheurs, voire même avec des caméramans. Parce que dès le départ, en fait, ils pensent l'enregistrement avec un caméraman avant de penser l'analyse. Bref, il y a des ingénieries coopératives qui existent. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Sur, en fait, le fait, en tant que formateur, d'être isolé dans la recherche, ça peut parfois limiter ce que vous allez enregistrer et analyser. Par contre, il y a des conditions. Quand on travaille en équipe, il y a des travaux... qui montre que si on n'a pas clairement défini ce qu'on cherchait et le rôle de chacun, ça marche pas. C'est-à-dire, c'est assez complexe, ce choix collectif. Je l'ai étudié, moi, chez beaucoup de formateurs avec des enseignants expérimentés qui allaient filmer, du coup, des séquences. Et déjà, la première étape, parce que c'est celle qu'on retrouve le plus à l'ESP, c'est-à-dire qu'on va chercher chez des gens expérimentés ou des novices, en fait, des corpus. Et la première chose, c'était de partager les visions, notamment parce qu'il y a une dissymétrie de statut. Et que si au départ, on se met pas d'accord sur comment on envisage, si on vient voir la façon dont tu présentes tes consignes, est-ce qu'on partage d'abord ce qu'on en pense tous les deux? Et s'il n'y a pas ce travail préalable, avant même l'enregistrement, avant même d'analyser sur, en fait, comment tu fonctionnes, et partager, donner à l'autre, et accéder, moi je suis formateur, voilà mes attentes pour me former, et toi, en fait, quel est ton travail par rapport à ça? S'il n'y a pas ce temps-là de partage, ça biaisait beaucoup le choix. L'autre chose, il y avait du temps, ça demande du temps. C'est des séquences qui montent souvent entre 1 et 2 heures. Il y a un temps d'immersion, parce qu'il y a un statut, c'est très français en fait, où le temps que le prof expérimentaire a à se caler, à donner les choses, ça demande du temps. Et ce qui était très important, c'est que le formateur acte les extraits retenus et la manière dont on va les exploiter en formation. Quand ça, c'était pas fait, il voulait pas que les formateurs reviennent. C'est-à-dire, tu vas choisir cet extrait-là 2 minutes, ok, c'est celui-là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je veux que tu dises ça en plus aux étudiants sur ce qui s'est passé, etc. Donc il y en a certains. Pour éviter ça, bah du coup, ils font une autoconfrontation du collègue annexée, où en fait, il lui dit bah, « dis-moi ce que », ou une autoconf, ou des commentaires, où le prof en fait est filmé pour dire ce qu'il a envie de dire de la séquence qu'il donne à voir. Mais c'est une part de leur intimité, et ceux qui refusent après d'y être, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas été associés très explicitement, c'est ça que je retiens, et puis t'inquiète pas, je vais dire ça aussi, entre guillemets, au formé de ce qui s'est passé, etc. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, ils veulent justifier une forme de pratique. Donc quand vous allez chercher, entre guillemets, des corpus, c'est pas anodin. Et puis, il y a des travaux qui ont montré ce qu'on appelle les inférences sémiotiques, qui étaient inévitables. Donc là, c'est un jargon. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils parlent de l'ocularisation, c'est-à-dire les effets techniques, c'est-à-dire la façon dont on filme a des effets sur la façon dont on perçoit. Donc ça, le premier. Et surtout, l'habitude interprétative. Vous êtes tellement ancré dans votre domaine, en tant que formateur, c'est pour ça que c'est bien les ingénieries coopératives, que des fois, on a une cécité. On filme les choses d'une certaine manière sans trop savoir pourquoi on le filme, parce qu'on a des habitudes d'interprétation, des habitudes pour voir la classe et autres, qui fait qu'on passe à côté de plein d'autres choses. Donc, quand même. Et donc c'est une chose qui est importante à prendre en compte, d'où l'intérêt d'avoir des ingénieries coopératives de choix d'extrait. L'autre chose, c'est la dégradation du réel. Par exemple, si je prends une vidéo de Neopass et que j'utilise, moi, elle a été pensée pendant un groupe pendant des mois, par des chercheurs, par des caméramans. Chacun a mis sa vision. Donc on arrive, nous, en bout de chaîne, en étant des fois le 8-10e personne, où on a dégradé un réel d'une prise de classe avec des gens qui ont déjà pensé comment filmer, comment le voir et autres, et nous, on arrive au bout sans forcément avoir accès. D'où l'intérêt aussi, parfois aussi, d'aller chercher aussi vos propres corpus, ou entre guillemets, moins on est d'interlocuteurs et plus on est au proche des choix, plus aussi on sait mieux les exploiter. Donc ça a été montré, donc ça interroge quand même ces aspects-là. En tout cas, moi, le truc que je retiens le plus, c'est l'habitude interprétative, qui fait que c'est assez marrant, quand on met tous les formateurs qui ont pris des corpus, on arrive à voir la façon, et on... Ah oui, c'est vrai, c'est évident pour moi, j'ai toujours vu comme ça les choses, ouais, mais t'aurais pu filmer comme ça, t'aurais pu donner à voir ça, ah oui. Donc c'est intéressant des fois de le faire collectivement. Alors maintenant, si je passe sur le raisonnement, il peut être triplement caractérisé dans la littérature. C'est la capacité à décrire les éléments qu'on a retenus, les interpréter, c'est-à-dire être capable de les juger, de justifier, et être capable de se projeter, c'est-à-dire voir des remédiations, des conséquences possibles à ce qu'on voit. Alors, la première chose, c'est que ça dépend du développement professionnel, bien évidemment. C'est une évidence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les raisonnements qui peuvent être me comparer, ça peut être me projeter, ça peut être évaluer, etc., chaque prof les mobilise pas de la même manière. C'est-à-dire, souvent, quand on fait les études, ils mobilisent plein de façons d'interagir avec la vidéo, mais jamais de la même manière, pas avec les mêmes proportions. Ça varie selon les vidéos, et surtout selon les circonstances de formation. Bien évidemment, vous êtes d'accord que le raisonnement de vos formés, par exemple, va être énormément influencé par votre questionnement. Si, par exemple, vous avez un questionnement, ça oriente énormément. Donc, on verra tout à l'heure, une des choses qu'on prépare le plus en tant que formateur, c'est la façon dont on va structurer du coup l'accompagnement et notamment les questions qu'on pose, qui elles ont une incidence sur la façon dont on voit. Alors, je vais vous montrer la complexité, pas pour vous embêter, c'est qu'en fait, quand un formé est en situation de formation, il a différentes relations et temporalités. C'est-à-dire qu'au moment où je visionne, il y a aussi mes expériences passées, mes expériences projetées, c'est même plus complexe que ça. Si je vous demande juste un enseignant novice, c'est Valérie Lucie Borer et Alain Muller qui ont fait ce schéma, c'est juste un formé qui discute avec un formateur de Neopass. Donc quand on voit le nombre de relations qui se passent, c'est-à-dire il y a je regarde la vidéo, il y a aussi le vécu de l'enseignant formé, il y a d'autres vécus professionnels, il y a les témoignages, il y a mon vécu à moi, il y a ce que je me dis de l'activité de référence, ce que je me dis de ce que font les débutants, etc. Est-ce que j'ai visionné autrement sur la plateforme. Alors, je vous montre pas ça pour, entre guillemets, montrer juste l'aspect complexité, mais ça interroge sur un truc. Quand on fait de la conception, vous en tant que formateur, les formateurs que vous allez mettre dans vos dispositifs, il faut qu'ils aient une forme d'acculturation à ça. Parce que quand je suis en face de quelqu'un, si j'ai pas en tête tous les liens qu'il peut faire, il y a des choses qui vont être non dites, que je ne vais pas aller interroger, et d'avoir une connaissance aussi de toutes les activités mentales qui peuvent être déployées par le formé, ça peut m'intéresser aussi moi, en allant explorer ce qu'il va pas chercher, en allant explorer ce qu'il ne veut pas dire, ou ce qu'il a de façon activité réelle au fond de lui, mais qu'il va pas me dire. Et c'est intéressant de voir tous ces pans qui sont potentiellement exploitables dans l'activité de formation. Par exemple, il peut ne pas parler de son activité réelle, il peut ne pas mettre en relation des autres vidéos de la plateforme, il peut ne pas faire référence parce que c'est informel pour lui à ce qu'il considère comme une activité typique et qu'en fait qui bloque son visionnage ou sa capacité de projeter. Donc c'est toujours intéressant pour les formateurs que vous avez de leur dire attention, en tant que formateur, ayez conscience de tout ce qui peut jouer pour pouvoir aussi aller entre guillemets tirer les fils de ce qui ne va pas forcément être dit mais qui peut être intéressant et fécond en formation. Donc c'est juste, le schéma je vous le mettais juste pour ça, c'est montrer que juste une petite séquence, imaginez sur un suivi, et là c'est juste un novice. Hein. Alors accompagner le visionnage, la littérature, de manière, ça scelle un consensus là-dessus. C'est-à-dire que la vidéo formation sans accompagnement, ça ne marche pas, si je résumais. Alors, je vais pondérer mon propos après. Il y a 5 éléments qui sont souvent pris en compte, c'est expliquer comment en fait on va utiliser l'outil. C'est-à-dire que il y a plein de séquences de formation qui n'ont pas marché parce qu'on n'avait pas clairement dit aux usagers comment ça allait fonctionner. Et que du coup, ils perdent du temps en fait dans la séquence parce qu'ils n'ont toujours pas accroché au wagon et entre guillemets au fil rouge du formateur. Donc il faut expliciter ça. Sélectionner ou aider les enseignants à sélectionner les vidéos, hein, vous avez compris. Trame de questionnement, c'est fondamental. Guider l'analyse et susciter des discussions. Donc la littérature anglo-saxonne, notamment via les communautés de pratique haute, mais énormément en avant, et je pense hier il y avait eu beaucoup de témoignages aussi sur les formations d'établissement ou le potentiel des discussions. Par contre, pas à vide. Elles sont toujours fécondes quand il y a un facilitateur très performant qui sait les guider, qui sait les faire avancer, qui sait ne pas rester que dans des digressions, entre guillemets, de jargonnage et faire évoluer la chose. Mais la discussion, entre guillemets, est un outil intéressant. Par contre, ça s'apprend à être formateur. Hein, c'est comme quand en classe, on met des élèves en coopération avec un tuteur et puis qu'on vient voir l'ancien novice en lui disant bah, « c'est bien, super situation dans l'idée, mais si tu n'équipes pas le tuteur pour aider son camarade, c'est... » Il y a un moment donné, c'est pareil. C'est-à-dire les formateurs, souvent, ils viennent dans la séquence sans être équipés à avoir appris. Je donne un truc tout bête. Est-ce que vous savez mener un entretien d'autoconfrontation en présence de pairs? Ça pose une question fondamentale quand on conçoit un dispositif de vidéo-formation, ce qui rend complexe. C'est que je dois concevoir mon dispo. Et souvent, moi, dans mon SP ou dans mon lieu de formation, je suis pas seul. Il y a d'autres qui vont faire la même chose. Il faut en plus que je forme mes collègues. C'est-à-dire que dans ma conception dispo, je pense que j'ai une ligne en dessous. En termes de formation de formateurs, qu'est-ce que je dois donner comme outil aux collègues? À quoi je dois les confronter? Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que souvent, on a une belle initiative, nous, dans un bassin de formation. On le tient, on est venu à l'IFE, on a fait une formation, mais à côté, on est 8 dans l'UE. Et les 7 autres, en fait, si eux, ils rentrent pas et que je les aide pas à s'emparer de ma dynamique et de ces choses-là, ben, entre guillemets, il y a quand même 200 étudiants en face et il n'y a pas que mon groupe qui doit en bénéficier. Donc il faut aussi créer et penser les temps où, entre guillemets, on va échanger avec les collègues. C'est pas juste on prend une réunion d'une heure où il y a ça à faire, vous faites ça. Il y a des temps de formation. On verra tout à l'heure, on peut par exemple leur faire jouer des entretiens d'autoconf, les mettre dans les positions d'autoconfrontés. Il y a plein de jeux à faire avec eux aussi pour, entre guillemets, bah, les amener à être capable de jouer ce rôle de formateur. En fait, c'est tout le registre de la pédale universitaire qu'on peut pas, entre guillemets, ignorer. Notamment en vidéo-formation. Et il y a des collègues aussi qui vont rebuter parce que du coup, vous n'avez pas mis ça dans votre dispo. Si vous dites « oui, mais en fait, on le fait que dans 6 mois ou l'année prochaine parce qu'on a un temps ensemble où on doit partager des choses, on doit s'y mettre. » Certains vont être stressés par l'outil, certains vont être stressés par guider. Certains ne le font pas parce qu'ils ont peur que ça bouleverse leur autorité naturelle juste qu'on s'en support dans la séquence de formation. Il y a plein de choses qui se jouent qui font que ça demande du temps, quoi. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est la manière dont vous percevez l'enseignement et la manière dont vous allez concevoir un dispo de formation, ça, entre guillemets, fait émerger une vision professionnelle et donc ça induit une forme d'apprentissage chez les formés. Il faut en être conscient. C'est-à-dire que quand je regarde tous les dispos, je peux vous dire ce que vous avez privilégié et ce que vous avez marginalisé comme pratique. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vous avez des habitudes et toujours attention de prendre du recul par rapport à ma connaissance du métier et du coup l'aspect collectif ou même des gens de d'autres matières parfois. Donc il y a des garde-fous, certains travaillent avec d'autres matières. Certains travaillent avec d'autres corps, par exemple un caméraman qui n'est pas du tout acculturé, qui a une autre vision, ou avec un chercheur, ou avec, ça va quand je dis ça, multiplier des angles de vue qui font que je vais faire attention de pas non plus avoir un prisme très restreint. Et donc, il y a deux choses. C'est partager en toute transparence, en fait, cette vision avec les gens avec qui je travaille. Et aussi, même au sein des situations de formation, certains auteurs disent, pour éviter ces relations de pouvoir aussi, parce que le formateur face à des novices a une position aussi, c'est donner la possibilité aux novices de donner leur vision professionnelle et leur donner une latitude, par exemple dans l'animation de l'atelier, dans le choix des vidéos. Et en fait, le fait de donner ces latitudes-là fait qu'à un moment donné, se libère une parole qui fait que on peut aussi se laisser affecter, comme dirait Sylvie Mousset dans un article, par les propositions déformées, et pas uniquement dans une vision un peu descendante. Alors, avec Simon, hier, je me suis dit, en fait, on vous parle toujours de trame de questionnement, on vous montre jamais ce que c'est. Alors, par contre, on a décidé de vous montrer des questionnements issus de la recherche. Juste pour vous montrer, je vais en montrer un qui est du courant de Simon. Donc nous, en fait, dans la recherche, quand on fait un entretien de notre confrontation, on cherche à avoir des choses qui sont liées à un cadre théorique. Ce côté-là, vous... Par contre, dans la façon dont on questionne, vous pouvez peut-être y trouver des choses pour vous alimenter, parce que je pense que chaque formateur doit se questionner sur comment je peux questionner un entretien. Donc je vous donnais un exemple. Là, qu'est-ce qui se passait pour toi? Quelles étaient tes préoccupations? Qu'est-ce que tu cherchais, etc. Vous montrez des exemples de questions, vous avez vu, qui sont liées, nous, ici, entre guillemets, un cadre théorique, hein, une intention, mais qui peuvent vous aider, vous, à questionner sur quel empan je peux aller chercher. Je voulais montrer, moi, ce que je fais, par exemple, lui demander de porter un jugement. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque? Quand tu dis c'est pas clair, ça veut dire quoi? Je le relance, hein, pour accéder, en fait, à ce que ça veut dire pour lui. Je peux aussi lui demander de justifier, me rentrer dans la controverse. Moi, je suis pas d'accord, tu faisais ça, etc. Et puis d'écrire, t'attendais quoi dans la situation? Bref, c'est vous donner des petits exemples qui sont issus de la recherche, donc il y a quand même une. Mais qui peuvent vous orienter à voir, en fait, je peux aller chercher quoi comme type de questionnement quand je confronte quelqu'un à ses propres images. Même si ici, je prends des modèles de la recherche. Et puis je reviens à ce que, en termes de conception, je pense qu'il est fondamental, notamment quand on manage une UE, c'est qu'il n'y a rien de plus formateur que de les mettre dans la position de te confronter, quoi. Même dans un jeu très simple. Je pense qu'à un moment donné. Oui, Simon ? Ouais, j'ai pas le temps d'aller dans le détail de toutes les questions. C'était montrer quelques exemples. Ouais. Merci, Simon. Mais je pense que ça, c'est un jeu qui marche très souvent, c'est-à-dire de mettre les gens en position de former. Alors, je voulais montrer un cas typique qui est lié à la plateforme. L'importance de l'accompagnement sur un cas typique. Il arrive que des enseignants novices, mais ça, c'est quelque chose qui va être évident pour vous, ils sont dépassés par les émotions ressenties. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une vidéo et il y a une réviviscence de l'expérience passée qui font « Oh, je suis submergé ». Et Serge Leblanc l'a bien montré, même avec une de ses doctorantes, que l'accompagnement à ce moment-là est fondamental. La plupart, ils restent entre guillemets en roue libre sur ce truc-là. Ça rumine. Et ils n'arrivent pas à passer le cap de s'engager dans une activité réflexive, c'est-à-dire anticiper autre chose, imaginer une autre voie pour agir. Donc ça, c'est un cas typique à la plateforme, où en étant submergé par mes propres émotions, je n'arrive pas seul à enclencher une démarche de me projeter, de dépasser, d'aller vers autre chose. Même en voyant Romain quelques mois après. C'est-à-dire que même en ayant quand même des choses qui sont pensées dans la plateforme, certains restent. Donc là, c'est un cas typique qui a été étudié par une doctorante, où elle montre bien que quand le formateur n'intervient pas, certains, en fait, et ça va jusqu'à un refus... une frustration et un abandon même, si c'est pas accompagné dans certains cas. Par contre, quand on regarde les travaux de Simon, il montre qu'une situation de vidéo formation d'autonomie peut être féconde. C'est-à-dire qu'il a montré que des gens qui naviguent, des anciens novices naviguent librement sur la plateforme, ils vont adopter, en se confrontant souvent, d'ailleurs ils inventent une nouvelle façon de faire, et en fait seuls, confrontés aux vidéos, ils y arrivent. Mais malgré tout, lui aussi rencontre parfois de la frustration. Et donc il en revient quand même... au fait que, moi c'est l'inverse, je leur dis, regardez ce qu'il faut voir, ils ne voient pas ce que je leur demande. Et lui, en fait, il est mis en autonomie, et par moment, en fait, ça, c'est de la frustration, je ne suis pas là. Et donc il en arrive à poser la question quand même de l'accompagnement. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas tranché. Par contre, pour nous, on est d'accord sur un truc, c'est vu que la part d'autonomie, elle existe, on ne peut pas ne pas la penser, la structurer dans notre formation. Elle peut être riche. C'est-à-dire qu'elle peut être notamment couplée à des temps d'accompagnement, mais on peut aussi exploiter ce temps d'autonomie, notamment parce qu'on s'aperçoit que si on met toujours les gens tout de suite en aspect collectif, on passe à côté d'effets de la vidéo non négligeables. Il y a la tyrannie des pairs chez les novices, avec certains qui ont un ego, certains qui s'expriment pas, certains qui vont même pas pouvoir voir la vidéo telle qu'ils l'auraient vue, parce que déjà, par les autres, ils sont influencés sur la façon de le voir. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de riche, ça a pensé, ça a structuré, et à coupler aussi un accompagnement, parce qu'on sent que c'est important, parce que il faut se prémunir aussi. Et notre préoccupation, c'est qu'ils apprennent, qu'ils se transforment et qu'ils y trouvent une satisfaction au travail. Mais c'est quelque chose. Alors par contre, dans la plateforme, il y a quand même des petites choses que vous avez pu voir. Moi, en tout cas, quand je suis formateur, je vois qu'il y a des choses qui sont suggérées. Il y a une forme d'ergonomie intuitive. Quand on monte quelqu'un quelques mois après, c'est que, à un moment donné, on veut aussi éviter certaines frustrations ou montrer qu'on peut être dans une prospective au même problème. Donc ça peut être un accompagnement technique, mais l'humain est fondamental. En tout cas, l'autonomie, souvent, n'est pas pensée dans vos dispos. En tout cas, elle n'est pas pensée comme quelque chose qui peut être très riche avant même d'aborder autre chose. Et ça peut être pensé comme un temps où je suis seul confronté, c'est un temps peut-être important pour moi-même, ne pas être avec le prof qui m'a dit de regarder ça, mes collègues qui me mettent sur ça, moi qui n'ose pas dire ça. En fait, il n'y a pas ce temps intime, moi et la vidéo. Pas longtemps, mais en fait, il a exploité. Et je pense que Simon, là-dessus, ses travaux sont très très riches. La deuxième chose, pour ceux qui sont plutôt dans les SP, ce qui était marrant, c'est que quand on mettait des séquences de formation, même en CM, ou on mettait des vidéos, ou même en suivi de stage, si vous mettiez juste un formateur universitaire, c'était toujours vu moins riche et moins efficace par les formés que s'il était associé notamment à l'enseignant filmé. C'est-à-dire que quand vous avez une séquence de formation qui est accompagnée par un collectif, alors déjà, ce qui est marrant, c'est que les formés disent « Ah, c'est cool, j'ai eu un double accord. Lui, il m'a donné la validation un peu théorique, et là, elle, oui, ben, elle le fait avec ses élèves, donc elle m'a donné la validation pratique. » Les propos sont assez marrants des formés chez les novices, c'est qu'en fait, ils ont besoin des deux. « Ouais, mais lui, bon, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, mais elle m'a vu les limites. » Et en fait, on se rend compte que quand ils ont les deux, ils y trouvent une plus grande satisfaction, et au travail, ils y trouvent plus de voies de renouvellement de leur pratique. Donc ça peut se penser, mais pas forcément en présentiel. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, certains formateurs prennent juste un extrait, certains font, on verra, il y a plein de modalités. Mais par moment d'avoir, et notamment avec ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que comme on a des enseignants à temps partagé dans les établissements, c'est des gens stabilisés qui peuvent aussi filmer dans leur propre pratique et être aussi dans le double jeu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la chance que tout seuls, ils peuvent jouer le double jeu. Ils peuvent jouer l'apport et en plus s'appuyer sur leur propre pratique et la commenter. Et donc, c'est des collègues quand même parfois qui peuvent être intéressants pour jouer ce jeu. Alors après, la deuxième partie que je vais investiguer, c'est quels sont les principaux objectifs de visionnage vidéo dans la formation des enseignants. Donc, ce qu'on voit dans la littérature, c'est montrer de bonnes pratiques, des situations typiques, analyser des diversités de pratiques, stimuler la réflexion perso, coacher les gens, voire évaluer des compétences. On voit tout. Ce qui ressort de façon très macroscopique, c'est des visions plutôt normatives ou développementales. C'est-à-dire, soit on dit, voilà ce qu'il y a à faire, c'est exemplaire. C'est un guidage qui est assez direct initialement, même si on essaie de construire le style de la personne dans un second temps. Par contre, il y a des questions éthiques. Dire, a priori, que des pratiques sont dites bonnes ou mauvaises en amont, c'est pas anodin. En tout cas, la littérature le pointe. L'autre chose, c'est des travaux comme Serge Leblanc disent, parfois de rentrer sur la construction de l'expertise ne se fait pas forcément sur le rapport expert-novice. Il se construit aussi des fois dans l'altérité. D'où la plateforme qui est construite comme sur ce principe. Elle n'est pas sur l'expertise, se construit pas uniquement sur la voie de montrer l'expert. L'approche développementale, c'est plus interpréter, réfléchir, réélaborer. Réélaborer, j'aime bien ce mot que tu emploies souvent, Simon, parce que souvent on considère dans la vidéo que les gens en fait voient une vidéo. Certains en fait, ils vont voir ah c'est cool le permis à points et ils adoptent directement le truc. Certains vont l'adapter, mais souvent on voit souvent, c'est qu'ils ont carrément inventé une nouvelle voie. Et ça, en tant que formateur, il faut vraiment être conscient de ça, parce que souvent, on est prêt à accompagner la façon dont ils vont s'emparer ou adapter ce qu'ils voient, mais on n'est souvent pas du tout, parce qu'on n'y pense pas, ouvert à, en fait, pour la plupart d'entre eux, c'est ça fait un déclic et ils imaginent une voie qui n'est pas celle que vous pouvez imaginer. Donc toujours la même chose, comment j'accède à ça, comment j'accompagne ça. C'est-à-dire que cette activité est souvent présente. Et donc, c'est pas celle qu'on anticipe en premier, quand on montre une vidéo. Et donc c'est un guidage indirect, et donc on en vient depuis hier, c'est-à-dire qu'il y a forcément un objectif et une démarche à penser. Je pense que Patrick l'a encore dit hier, on doit savoir où on va et quelle démarche on emploie. Je pense que la richesse francophone, si on par rapport quand je lis les travaux par rapport au monde anglo-saxon, c'est que eux ils disent il y a un programme de formation, il y a un objectif. Et donc ils ont l'objectif du bout et ils construisent la vie de formation. Nous la richesse qu'on a, c'est qu'on peut penser aussi la démarche via l'analyse du travail. On peut aller un peu plus loin sur la manière dont on va les amener à atteindre ce but. Et je pense que c'est une richesse, au moins, d'avoir une intelligibilité de la façon dont, entre guillemets, on peut aussi construire, notamment via l'analyse du travail, ce cheminement, cette trajectoire d'expérience pour aller jusqu'à ce but. Eux, ils disent, il y a ce but, donc je mets tel dispo. Donc l'outil sert ça. Nous, on est beaucoup plus fin, et on peut être beaucoup plus fin sur mais la manière dont j'accompagne, la manière dont j'amène le travail fait que... Alors, il y a différentes modalités, ça peut être, vous regardez la littérature, c'est hyper vaste, La vidéoformation, c'est en présentiel ou à distance, c'est en direct ou enregistré, c'est occasionnel ou c'est de façon régulière, c'est seul ou en groupe, il y a de tout. C'est combiné à des portfolios, combiné à des discussions en ligne. Par exemple, il y a des plateformes où en fait les experts novices discutent à propos de vidéos librement. Vous avez des visioconférences, beaucoup en Angleterre, c'est-à-dire vous avez le prof est en CM et en sciences physiques, démarche d'investigation, ok, et il se connecte avec une classe, et il voit la classe en live. Il y a un extrait, et donc ils sont les étudiants en direct, on voit le début de la démarche d'investigation, il coupe le truc et il enchaîne sur son cours. Vous avez même, aux États-Unis, ils vont encore plus loin, la séance d'avant en TD, ils construisent une leçon en ligne avec le prof, et après ils voient comment les élèves réagissent au truc qu'ils ont co-construit avec le prof en ligne. Et c'est ce qui initie les CM. En fait, on se rend compte de plus en plus, parce que dans des pays, il y a eu des réformes. Parce que là, je prends les exemples anglo-saxons, il y a eu beaucoup de réformes. Notamment, on prend les États-Unis. En mathématiques, ils leur ont dit, maintenant, il faut se centrer sur l'élève. Donc, ça a été souvent impulsé par des réformes. Nous, on a aussi certaines réformes qui peuvent nous aider. Mais ce qui est intéressant par là, c'est, il y a quand même des innovations possibles. Et puis, il y a des plateformes. Il y a Neopass que vous connaissez. Je voulais en montrer juste une autre, qui est pas du tout construite de la même manière. Qui a été lancé par, il y a pas mal d'années par Robert David au Canada, qui travaille notamment sur les cerfs pédagogiques. Ça peut intéresser certains qui travaillent sur la formation d'adultes, et notamment en formation continue. Et en fait, c'est pas construit de la même manière. C'est-à-dire que ici, c'est pas l'activité typique, c'est du partage d'expertise. Par exemple, je prenais le 3 là. En fait, la démarche de construction des élèves de la mesure des angles inférieurs des polygones réguliers. Donc en fait, vous allez vraiment voir l'activité des élèves, comment elle se déploie. Donc c'est une centration assez didactique sur des partages d'expertise et des innovations. Donc c'est pas du tout la même entrée que Neopass. Par contre, ça peut parfois être intéressant pour alimenter ce que vous faites. Ça va ? C'est-à-dire qu'il existe aussi d'autres plateformes, mais qui ont été pensées avec d'autres. C'est lui, Robert David. Et qui ont été pensées autrement. Oui, c'est Zoom Animare, mais vous l'aurez sur le PowerPoint, le lien. Donc montrer qu'il y a d'autres ressources qui sont pensées autrement, qui peuvent aussi se combiner. Par contre, si vous avez tous compris pas aujourd'hui, c'est que vous êtes plus avec un regard... qui a affûté maintenant, vous avez compris qu'il y a des présupposés théoriques dans les deux qui sont différents et que vous n'êtes plus maintenant, entre guillemets, vous n'avez plus de cécité à ça. Mais bon, vous savez les manier, comme disait Frédéric hier, vous n'êtes pas chercheur. Des fois, vous pouvez articuler différentes manières, différents types de vidéos et ça peut permettre à certains de s'y retrouver. Alors, en illustration, je voulais montrer des illustrations sur des aspects concrets, sur des choses que vous allez rarement voir dans parce que c'est des publications anglophones. Dans la formation continue, il y a depuis plus de 10 ans, l'idée de club vidéo, c'est-à-dire des formations en établissement où les collègues volontaires, quelle que soit leur discipline, se retrouvent chaque semaine ou chaque deux semaines pour discuter de leurs pratiques. Et donc ceux qui veulent aller voir les travaux notamment de Sherine, Vendès et autres, hein, je pourrais vous donner plein de références, il y a la présence d'un facilitateur qui choisit l'objectif et parfois les extraits vidéo. Donc quelque chose de très cadré, ça monte très bien, ça marche très bien. Par contre, eux, par exemple, c'est 8 mois de travail de conception. Trouver le nom, comment ça fonctionne. J'ai donné quelques billes. Les éléments, juste des éléments de réflexion pour montrer que c'est pas évident. Déjà, ils se sont dit que si ça s'inscrit pas dans le temps, ça génère de la frustration, voire de l'abandon. Et qu'il faut du temps pour qu'il y ait une confiance pour livrer des choses. Il y a le temps institué. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un temps institué, ça ne marche pas. Puis, s'il est le midi, ça marche mieux que s'il est en fin de journée. Que est-ce que le public est volontaire ou désigné? Et donc, on a vu hier, ça pose des questions avec le chef d'établissement, avec la façon dont on se forme. Le statut des facilitateurs, est-ce que c'est moi qui forme mes collègues? Et donc ça arrive. Est-ce qu'il y a une rotation? Est-ce que c'est plutôt deux établissements et du coup on va former nos collègues, en plus on partage, etc. Ça pose quand même des questions de conception qui sont pas anodines. Mais par contre, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, important à penser au jour d'aujourd'hui. Ça renouvelle la façon dont on peut penser la formation continue aussi en contexte. Puis il y en a qui le pensent, ce club vidéo, en face d'une autre façon. Par exemple, ici... Eh ben, on confronte des gens à un problème, et collectivement, les profs, en fait, ils vont planifier ensemble des choses, chacun va le tester dans sa classe, et après, ils vont voir comment eux réagissent et leurs élèves. Donc, ils vont regarder, en fait, leur rôle en tant qu'enseignant et la façon dont pensent les élèves par rapport à une chose qu'ils ont co-planifiée ensemble. Donc, c'est une autre façon de faire. Et ils essaient de résoudre un problème qu'ils partagent, par exemple, à deux ou à trois, et ils développent, entre guillemets, une chose. Il y a aussi quelque chose qui est récent, c'est mon partenaire d'enseignement. Vous voyez, les noms choisis sont pas anodins à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pour les profs aux États-Unis qui sont trop loin des centres de formation. Ils ont mis, en fait, une bibliothèque. Ils ont, en fait, une bibliothèque de vidéos annotées avec des bonnes pratiques, ce qu'ils appellent bonnes pratiques. Ils ont une formation présentielle très rare. Ils ont un coaching individualisé en ligne. C'est-à-dire que chaque deux semaines, ils se filment dans leur classe. Il y a un coach qui leur met des commentaires, ils réagissent. Ils ont un lien, entre guillemets, entre eux, de discussion très rapide. Et ils disent ce qu'ils vont tenter pour les deux semaines qui suivent. Si vous montrez juste des choses, c'est pas pour les copier, mais montrer qu'il y a quand même des réflexions menées. En formation initiale, il y a ce qui est plutôt le micro-enseignement. Je vais pas détailler tout pour vous. C'est juste, en fait, là, on n'a pas le temps. Là, c'était le cas d'enseignants en mécanique, en Turquie. Vous voyez, on est sur un autre domaine. Et en fait, eux, ils n'avaient pas le temps d'aller toujours dans l'univers du travail. Et donc, ils sont rentrés par les jeux de rôle. C'est-à-dire, ils font créer des scénarios par les étudiants sur l'activité de l'enseignant et les réactions potentielles des élèves. Ils les font jouer et ils réfléchissent sur ces scénarios filmés. Et donc, ça pose la question, vous, on peut aussi utiliser la vidéo comme un outil fictionnel dans un dispositif parfois. On n'a pas toujours le temps matériel dans une séquence de 2 heures d'aller sur le terrain ou autre, mais là, ils ont montré des gros résultats aussi pour, entre guillemets, rassurer, stabiliser intellectuellement ou émotionnellement des choses avant même de s'y essayer avec ses propres élèves. Donc ils le jouent soit en le faisant jouer aux EN, mais il y en a qui font, et moi c'est mon cas, je fais jouer des fictions aussi aux enseignants expérimentés souvent. Et d'ailleurs, ils rentrent beaucoup plus dedans. Parce que je présente aux étudiants, voilà, je lui ai demandé de jouer quelque chose avec les aspects perfectibles avec ses élèves en situation de vraie classe, mais du coup, il a l'impression de jouer un rôle, l'enseignant expérimenté, du coup, se dédouane aussi de son activité. Et on lui fait jouer des scénarios, et d'ailleurs, on lui fait jouer des fois des méthodes qu'il ne fait pas au quotidien. Donc lui, il apprend, il joue les aspects qui marchent, les aspects qui marchent pas, je lui dis de forcer le trait sur certains trucs, et les étudiants, je leur présente comme une fiction avec certains aspects tentés ou autres. Donc ça peut être, on peut penser aussi la vidéo, pas uniquement sur une réalité, mais sur une fiction, parce qu'on veut choisir des éléments clés ou accentuer ou tirer le trait sur des choses. Ou le faire vivre aussi, en termes de fiction. Et puis une dernière chose qui est très, très, très utilisée, c'est la notation vidéo. C'est-à-dire, on demande aux anciens novices de filmer des aspects de leur leçon, de la visionner et de sélectionner des incidents critiques, ils appellent. C'est-à-dire, il y a des thèmes choisis, qui peuvent être préidentifiés ou non. Et après, ils analysent, ils rendent compte par écrit individuellement, et ils postent en ligne des vignettes qui sont disponibles aux autres, c'est-à-dire avec leur analyse sur un portfolio. Ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé. Enfin, j'ai essayé de montrer des petites choses qui sont utilisées. Je suis obligé de passer assez vite. Il y a exploité le visionnage en fonction des objectifs. Je pense que tout le monde l'a cerné. L'illustration qu'a montré hier, je pense, Patrick, on voit bien qu'en fonction des préoccupations des novices, on est obligé de construire nos objectifs de vidéoformation aussi sur leurs préoccupations et leur développement. La deuxième chose, c'est l'hybridation. C'est aussi une réflexion de la communauté au jour d'aujourd'hui, notamment des chercheurs. Les chercheurs tiennent un cadre théorique, c'est souvent qui, entre guillemets, privilégie une façon de voir le visionnage vidéo. Vous, quand vous en emparez, vous avez le droit de les mixer. Et de plus en plus de propositions d'hybridation, par exemple chez les novices, on voit beaucoup d'analyses, entre guillemets, ou des exemples de pratiques exemplaires, donc quelque chose qui serait plutôt normatif, et à côté, t'as un accès, tu te mets au travail, on fait une analyse réflexive. Donc il y a des couplages qu'on voit très très souvent. Chez les expérimentés, on voit souvent, dans les établissements, des vidéos qu'on pourrait dire plutôt spécifiées, c'est-à-dire qu'on les met à travailler sur un objectif prédéterminé, ou plutôt des choses plus adaptatives, c'est-à-dire on fait émerger de leur pratique des choses. Donc on joue sur les deux choses. Donc on voit qu'on peut avoir des modalités couplées qui sont riches d'un point de vue formatif, mais qui sont pas forcément valides théoriquement. Mais c'est pas votre problème. Après, si je rentre sur les effets des différents types de vidéos visionnées par les enseignants en formation, je vais essayer. Ce que la littérature dit, c'est qu'on peut se voir au travail, voir des enseignants inconnus, hein, qui peuvent être des pairs ou autres, ou l'activité de pair, pair au sens de je les connais, c'est-à-dire j'ai une affinité ou une connaissance de leur contexte. Quand je vois ma propre pratique, hein, vous êtes d'accord, c'est un miroir, et on va plutôt axer, en termes de conception, sur tout ce qui est réflexion descriptive et critique. Repérer des éléments améliorés, et accéder notamment à des éléments non perçus de la leçon. C'est-à-dire qu'on peut cibler les objectifs par rapport à ça. Par contre, il y a une forme d'inconfort, hein, notamment en situation collective. Et donc, il y a des précautions quand on fait, par exemple, des autoconfs en situation collective par rapport à ça. Tout le monde passe en position de auto-confronté. Il y a le primaire de la parole à l'acteur avant même des commentaires. Nos commentaires doivent toujours donner une piste de construction, etc. Bref, il y a quand même tout un jeu à instaurer, une confiance pour que ça fonctionne. Alors, voir des inconnus inconnus, pour la littérature, c'est surtout un objectif de s'approprier, par exemple, des méthodes d'analyse. Voir, entre guillemets, qu'analyser quelqu'un, ça peut être fécond, ça peut l'aider. Par exemple, si on regarde Romain, bah, de s'analyser et de se voir, ça me permet de changer ma pratique et d'évoluer. Donc développer des méthodes, et ça peut être exploité après, et comme une première étape avant de se voir au travail. C'est-à-dire, je vois déjà que cet outil peut être fécond pour les autres, que moi je peux m'y repérer déjà, trouver des pistes de transformation. Le problème parfois de ce type de vidéo, c'est qu'on a des contextes qui sont éloignés de notre propre pratique. Alors, l'activité de pair, c'est voir en écho. Donc là, c'est quand on cherche plutôt des activités mimétiques et empathiques. ça rassure beaucoup les enseignants et ça les sort de l'isolement. Donc on voit qu'il y a quand même des limites et des intérêts très spécifiques au type de vidéo qui peuvent être en fait dans la trajectoire expérientielle qu'on souhaite les faire vivre, on les choisit en fonction des objectifs qu'on poursuit à un moment T. Il y a des réflexions plutôt comparatives que descriptives à ce moment-là. Par contre, ce qui est assez bizarre en littérature, c'est qu'il y a souvent une réticence à critiquer les pairs et à rentrer dans une vraie démarche de construction. Il est comme moi, j'ose pas, et donc c'est quelque chose dont on doit être conscient. Donc là, en fait, l'idée à retenir, c'est de fournir aux enseignants des informations sur le contexte de l'activité quand ils voient des inconnus, donc les caractéristiques, rendre accessible parfois les éléments observés. Par exemple, s'il y a une méthode pédagogique, forcément, il faut leur en parler avant, sinon ils vont pas avoir une cécité à ce qui se passe. Aussi, on peut filmer d'une manière, on a dit tout à l'heure, autre, c'est-à-dire par exemple zoomer sur le tableau, sur des traces d'élèves qui font qu'on donne à voir des choses sur lesquelles on veut mettre l'accent. Et ça, en Néopass, on l'a pas forcément, donc on doit créer nos propres corpus par moment. Et puis, ce qui est important et ce qui est mis dans Néopass comme une richesse, c'est donner accès aux intentions, aux émotions, aux préoccupations de l'acteur. Donc via des autoconfs, des commentaires écrits ou autres, mais à un moment donné, on peut pas se passer, qu'on a une entrée activité, de ce qu'a vécu l'acteur et du vécu de l'acteur dans la situation auquel on l'a formé. Trace papier, etc. Il y a l'idée de communauté d'apprentissage et de soutien. On a bien compris que quand on se donne à voir au travail, c'est plutôt dans le cas des vidéos, il y a des mécanismes d'autodéfense ou de refus de participer. Donc sécuriser hein, et mettre en confiance. Donc ça, je pense, c'est des choses que vous maîtrisez. Préciser que c'est ni valu ni diffusé. Il y a des normes pour interagir. Il y a des règles. Il y a l'ambiance constructive, c'est-à-dire la façon dont on commente peut être hiérarchisée. Il y a des procédures. C'est-à-dire montrer qu'il y a des possibilités d'apprentissage. Articuler temps individuel et collectif, j'ai déjà précisé tout à l'heure. Et ça demande du temps. Et donc se pose la question de ce qu'on disait tout à l'heure, de quand on crée un dispositif de formation qui est très ponctuel. Alors, là, je vais aller très vite. C'est juste... pour rebondir sur...
C'est déjà assez
bien. Je sais, mais je les vois là-bas qui me pressent. Répondre à la commande d'articuler les deux, ça demande... C'est pas évident, du coup. Je suis obligé d'aller assez vite. Des vidéos agencées et à choisir en fonction de l'objectif, c'est juste que hier, je pense que Patrick l'a montré, c'est que vis-à-vis du but, il y a une trajectoire à construire. Et par exemple, on pourrait imaginer, si on se place avec des novices ou même des expérimentés par moment... que visionner d'abord des inconnus dans un premier temps, ça permet de familiariser au potentiel outil pour ma propre pratique et de le faire, entre guillemets, en étant protégé de ma propre intimité. Ça me sécurise, ça me met en confiance et après, je peux être amené à visionner ma propre pratique hein, en suivi de stage ou en atelier de développement professionnel. Ce qui est important, par contre, entre chaque séquence, c'est les vidéos montrées une forme d'air de famille. C'est-à-dire, on peut pas non plus partir dans des vidéos qui sont dans des univers complètement différents pour construire cette progressivité. Je vous renvoie à l'entrée progressive du métier de Serge Leblanc. Je vous ai mis le lien après sur la conférence de consensus, c'est-à-dire qu'il a essayé de penser, lui, la trajectoire expérientielle et les types d'usages vidéo. Par exemple, quand je suis en pratique accompagnée, je vais plutôt faire de l'allo-confrontation, ça va ? C'est-à-dire ce que je viens de dire. Découverte, communauté débutante. Puis après, quand je suis en responsabilité, je peux commencer à être sur une autoconfrontation simple. Puis si on va jusqu'à T1 ou en établissement, on va aller sur des autoconfrontations croisées au collectif. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé des trajectoires potentielles entre un public, ça va, et son entrée progressive dans le métier. Et donc de hiérarchiser les types d'artefacts prioritaires à utiliser par rapport à ça. L'idée pour vous, je savais que je ne pouvais pas être exhaustif dans le propos, mais le PowerPoint a des... Il y a une autre chose, c'est qu'on parle beaucoup de visionner des enseignants. Tout à l'heure, je vous ai dit que la grosse réflexion qu'il y a eu dans les pays anglo-saxons, c'est de centrer les gens aussi sur l'activité élève. C'est du coup une vidéo qui peut être pensée comme un corpus aussi intéressant. C'est-à-dire, il y a les autres, il y a les inconnus, il y a moi, mais il y a aussi l'élève. Il y en a même, comme Rossella Santagata, qui vont jusqu'à demander aux enseignants de filmer et de retranscrire des entretiens d'élèves, voire même de faire des autocomptes de certains élèves, pour prendre conscience de certaines choses, même en formation initiale, même pour certains expérimentés qui sont à pas comprendre certaines choses, c'est-à-dire auto-confronter leurs propres élèves à ce qu'ils viennent de vivre comme tâche. Et ça, c'est des expériences riches, par contre, qui peuvent renvoyer des choses qui sont accompagnées. Par contre, ça peut être aussi un dispositif de vidéoformation ou un outillage pour certaines difficultés ou certaines prises de conscience. Il n'y a pas que moi. Je peux prendre conscience de moi à travers l'autre aussi. Par contre, alors, je finis sur les effets. La littérature, en fait, elle montre beaucoup d'effets en termes de motivation. Mais bien évidemment, c'est un outil... malgré tout, qui est assez paradoxal, hein, C'est-à-dire qu'à la fois, ça crée une grande attractivité de la séquence, mais à la fois, tant que c'est pas moi. Donc, il y a quand même une progressivité des choses à construire. Donc, ça a des effets sur la motivation, bien évidemment, et puis surtout parce que c'est un artefact de pratique de choix. C'est-à-dire, qu'on amène des aspects authentiques de travail, c'est toujours plus intéressant. Ça a des effets sur la cognition que je vais pas détailler. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir une attention sélective beaucoup plus efficace sur les événements pertinents, et leurs raisonnements sont de plus en plus ciblés, spécifiques, interprétatifs. Bref, la littérature, surtout anglo-saxonne, c'est bien la vidéo, ce qu'on réfléchit, quoi. Bah oui, vision pro. Eux, leur finalité, c'est qu'ils soient capables de bien voir. Nous, ils sont capables de bien agir. C'est-à-dire le métier dans une vision plus holistique. Et là-dessus, il n'y avait rien. C'est-à-dire que vous avez des centaines de travaux sur la vidéo-formation, et il n'y en a aucun qui a été voir si ça a impacté la pratique des enseignants. Donc, c'est nos travaux avec Simon. C'est notre job. Alors, par contre, je suis médisant. Il y avait une collègue de Chicago dans les clubs vidéo, parce qu'elle est au contact de collègues de terrain, qui avait montré quand même dans les clubs vidéo que ça impactait la pratique. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils exploitent différemment les choses en fonction de leur contexte. Ce qui était logique, et elle a juste mis en évidence ça. Au jour d'aujourd'hui, les études, elles étaient plutôt à dire « Oui, c'est bien la vidéo-formation parce que ça les prépare intellectuellement et émotionnellement à la pratique. » C'est-à-dire, ils faisaient remplir des questionnaires aux étudiants, ils disaient « C'était bien, ça t'a aidé. » Mais jamais on allait constater sur le terrain, empiriquement, les choses. C'est ce qu'on a fait avec Simon. Et on a constaté une plus-value, et dans deux cas théoriques complètement différents. Donc, c'est intéressant quand même de se dire qu'il y a quand même une plus-value, même si des travaux sont récents, sur la vidéo-formation en contexte de travail. Ça crée des transformations au travail. Mais ce qui était assez surprenant quand nous on s'y intéressait à la littérature, c'est qu'en fait il n'y avait pas de trace de ça. Alors que ça nous paraissait quand même une évidence. Par contre pour vous, parce qu'on parlait de chercheurs, c'est quoi? Dans votre conception, il y a évalué aussi. Est-ce que vous avez pensé la façon dont vous allez évaluer votre dispositif? C'est-à-dire qu'il faut trouver une manière d'obtenir des retours de votre séquence de formation, qui se déroule toutes les semaines, tous les mois, etc. Ce qu'appellerait Simon en tant que chercheur une conception continuée dans l'usage. C'est-à-dire que lui il conçoit, il a des retours, puis il reconçoit. En fait, ça vous permet d'avoir des retours et d'alimenter parfois même, parce que ce que disent les acteurs alimente votre séquence. Ça doit être pensé dans la conception. Est-ce que c'est anonyme? Comment je le recueille? C'est pas anodin. Puis comme vous êtes des professionnels, ce qui peut alimenter aussi, c'est de poser la question, en fait, ça a quel effet sur leur pratique? Est-ce que j'ai des preuves directes, c'est-à-dire qu'ils me ramènent des vidéos? Est-ce que j'ai des traces indirectes, c'est-à-dire des traces de leur travail, des témoignages? C'est pas anodin dans la séquence. Si on ne le prévoit pas, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse pas, qu'on met pas l'accent dessus auprès même des acteurs, alors que c'est une préoccupation. Par contre, aussi, il y a toutes les dimensions. Souvent, vous avez tendance à regarder l'enseignement, mais on peut même aller interroger, est-ce que ça a changé ta façon de planifier? Est-ce que dans tes réunions avec tes collègues, ça se joue autrement? Est-ce que dans tes interactions avec les parents, c'est-à-dire qu'aussi la vidéo formation, on peut voir toutes les dimensions du métier potentiellement qu'elle peut aller investiguer? Et on peut aussi aller chercher si ça crée des changements ou des perturbations dans certains éléments. Par exemple, je change mes méthodes pédagogiques, ça peut changer des rapports à certains parents. Et donc mes interactions, ou même mes collègues. Et souvent ça, on est centré sur la classe et on n'interroge pas les autres dimensions du métier dans la vidéo-formation. Parce que l'image, du coup, donne une focale sur le travail et pas sur l'ensemble de l'exhaustivité du travail. Et ce qui peut parfois bloquer ou gêner. Et puis, les auteurs aujourd'hui disent, c'est bien beau que l'enseignant se sente bien, qu'ils te disent qu'il travaille bien, mais en fait, le travail élève, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut pas, ils peuvent pas ramener des traces d'élèves, est-ce qu'ils peuvent pas ramener des traces de vidéos d'élèves? Je finissais là-dessus, c'est-à-dire à votre dispositif, il peut être très bien pensé en termes de finalité, mais il doit être conçu aussi en termes d'évaluation de sa propre efficacité, des effets qu'il génère, qui alimente lui-même le dispositif. Quoi. Donc c'était des questions que je vous posais. Ça, je vais le faire très succinctement. Avec Simon.
Je sais que t'allais dire je vais sauter.
Ouais, mais comme tu me. Ouais, j'ai bien interprété. Utiliser visionnage vidéo à bon escient, c'est-à-dire, je donne un exemple. Est-ce que quand on voit l'autre, c'est-à-dire rentrer dans la classe, ou avoir un conseil d'un conseiller pédagogique, c'est uniquement par la vidéo? Et en fait, faudrait pas que ça arrive des fois à des aberrations. C'est-à-dire que j'ai vu des réunions, même à l'ESPE, où des gens, ils mettaient de la vidéo partout. Et au final, le directeur disait oui, mais vous avez besoin de la mettre partout. À un moment donné, ça va être coûteux en temps, coûteux en matériel. C'est-à-dire, faut être aussi fin sur parfois une observation en classe, il n'y a pas besoin de l'outiller de la vidéo. Parfois, un conseil est aussi efficace in situ que une semaine après via une vidéo. Mais à un moment donné, il faut quand même être lucide sur est-ce que c'est opportun. Parfois, c'est une nécessité. Par exemple, moi, je suis formateur universitaire et j'ai pas accès et je peux pas aller à 100 bornes toutes les semaines. Bah, le tuteur me renvoie des traces. Donc là, la vidéo est intéressante. Et puis, c'est singulier. Je pense que le principal intérêt aussi, qui est unique, c'est se voir au travail. C'est-à-dire que tout le reste, on pourrait le faire souvent sans la vidéo. Par contre, se voir au travail, ça, il y a que la vidéo qui le fait. Et ça, à un moment donné, on peut pas s'y substituer.